Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette séance de notre rendez-vous Trésor du Doc. Troisième séance d'un cycle et la deuxième chez nous. Voilà, alors je explique. Donc c'est, disons, cette programmation, elle est vraiment directement issue de la lecture de l'ouvrage de texte réunis par Andrea Paganini, ici présent, que vous pouvez accueillir. Voilà, qui fait la démonstration. Donc c'est un texte, c'est un livre, pardon, Salut d'irrémédiable et autres saluts, hommages et portraits, aux éditions de l'Œil 2021. Et donc c'est un livre qui réunit une anthologie de textes de Rouche et qui, véritablement, sa lecture à aussi bien aux ateliers Varan que chez nous ici, à la BPI, a suscité l'envie de croiser les films et les textes aussi, puisque ces textes sont souvent pour des disparus, de redonner vie, on va dire, à ces disparus à travers les films de Rouche. Et d'autres, pas que de Rouche d'ailleurs, puisque ici, aujourd'hui, mais Andrea va tout nous dire, il y a un film qui n'est pas signé de Rouche. Et même Rouche n'est pas là. Donc voilà, je remercie en tout cas beaucoup les ateliers Varan, puisqu'on s'est associé avec eux. Donc il y a eu la première séance là-bas, et il y aura la dernière séance aux ateliers Varan, le 4 décembre. Si vous ne savez pas où sont les ateliers Varan, vous tapez ça sur internet et vous verrez, c'est dans un très bel endroit en plus. Voilà. Andrea va nous expliquer le programme d'aujourd'hui. Je lui mâche un petit peu le travail en disant que Wassis Diop n'a pas pu confirmer sa présence et que Dominique Verrier, que Andrea va présenté mieux que moi, à relever Wassis Diop de manière très généreuse. Et je le remercie. Andrea, c'est à toi.
Merci beaucoup Arnaud. Oui, alors Wassis Diop est désolé, mais il enregistre son nouvel album entre Dakar et Paris, donc il ne peut pas être là, malheureusement, mais Dominique nous fait l'amitié. Après avoir inauguré le cycle aux ateliers Varan, auquel il est lié, donc de lire deux textes de Rouche pour nous. Dominique est metteur en scène de théâtre, acteur et filmeur à l'occasion. Donc aujourd'hui, c'est un peu le cœur de l'œuvre de Rouche qu'on va toucher, un des nombreux cœurs en tout cas. Dans un des textes du recueil, ce livre est un recueil d'une soixantaine de textes de Rouche, écrits surtout dans les années 1980-1990, à l'occasion essentiellement de la disparition d'un certain nombre de compagnons de route. Il était souvent très intimement lié, et donc c'est des très beaux portraits de personnes qui viennent de disparaître ou qu'il a pu écrire un petit peu après, et des hommages et des saluts. Salut d'irrémédiable est une expression traduite par Rouche du Songhai Zarma, fond d'Attilas, pour saluer justement la personne qui vient de quitter ce monde. Il y a aussi des textes d'hommage à des personnes tout à fait vivantes, la pratique du salut, de l'hommage, chez Rouche est fondamentale. Enfin, c'est quelqu'un qui valorisait la relation humaine à un point tel, jusqu'à signer justement des films et l'œuvre au pluriel, comme on a pu le dire. Jean-Pierre Houdard, dans Les Cahiers du cinéma, a parlé à propos de Cocorico, Monsieur Poulet, de cinéma au pluriel. Enfin, il n'y a pas qu'un auteur unique, le grand nom, etc. Il y a un film collectif, il y a des films collectifs, et Rouche nous montre un peu cette voie-là. Malheureusement, assez peu fréquenté au cinéma. Et c'est justement avec ses grands amis nigériens que Rouche va faire 60 années durant ce cinéma collectif. Le groupe a même trouvé un nom, disons, qui est un mot valise, un acronyme, Dalaruta, Dalarutamu. si on inclut le cinquième personnage. Moi, j'aime bien appeler, les appeler un quintet de auteurs. Alors, nous avons derrière la caméra Jean Rouche, à l'image, Moussa Midou, preneur de son, aussi derrière la caméra. Ça, c'est, disons, l'équipe technique, réduite au minimum. Et devant la caméra, les trois acteurs, bien sûr, mais auteurs, puisqu'ils contribuent à différents titres à la construction du film, comme l'auteur Jean Rouche et même le preneur de son Moussa Midou. Voilà, donc ce quintet construit des films ensemble, depuis les tout premiers films de Rouche en 1940 jusqu'en 2000, jusqu'au dernier film, donc 60 ans durant. Il y a à peu près 35 films en tout, des longs métrages, voire très longs métrages, des courts métrages, des films achevés, des films inachevés. Et tout ça ponctue l'œuvre et est en lien avec d'autres films plus strictement documentaires de Rouche. Les films qu'ils font ensemble, c'est des ethnofictions, des fictions qu'on a pu appeler des ethnofictions, des fictions assez particulières, où le, disons, la base est dans la vie commune, dans la vie partagée, et où on instille une fantaisie, et voilà, de l'imaginaire et de l'humour beaucoup. Alors cette séance va être assez drôle, vous le verrez. Donc elle sera divisée en deux parties. La première autour de la figure de Dame Ourésika. Donc si vous fréquentez le cinéma de Rouche, vous avez très certainement entendu parler de cet acteur histrion magnifique, qui est un alter ego de Rouche. C'est même, ça va plus loin que Mastroianni et Fellini, ça va plus loin que Ninetto d'Avoli et Pasolini, enfin voilà. Et ça dure de 1941 jusqu'en 2004. 63 années de compagnonnage et de création commune. Donc le texte dédié à Damouré est de 1955, il a été publié en 1956, c'est le texte le plus ancien de l'ouvrage, et c'est donc un portrait hommage à Damouré qui était jeune à l'époque, il se connaissait déjà depuis 15 ans, et Rouche l'écrit à l'occasion de la publication du journal de route, c'est-à-dire d'un journal de mission fait ensemble avec Damouré et les autres au Ghana, depuis le Niger jusqu'au Ghana, en 1953-55. Presque un an et demi de mission, où ils partagent tout, encore une fois, et c'est la mission qui donnera lieu à Jaguar, que vous avez très probablement vu, et au Maître Fou, donc deux parmi les films les plus importants. Jaguar étant le premier film fini de ces fameuses fictions collective. Ils font des films ensemble, mais Damouré tient un journal de route pendant toute la mission, et Rouche et Jane Rouche, qui était aussi de la partie, la première épouse de Rouche, publient au retour de la mission en 55-56 ce journal, des fragments du journal sur la nouvelle revue française de, rien de moins. Et donc, ces fragments du journal sortent en trois livraisons, en janvier, février, mars 1956. Le texte que va nous lire Dominique est la présentation faite par Rouche de cette langue étonnante et merveilleuse de Damourésika. Alors, pour accompagner le texte, j'ai souhaité montrer un film de 73, donc 20 ans plus tard, qui est contemporain à Cocorico Monsieur Poulet. C'est aussi une histoire de voiture. Il y aura un autre film, toujours lié aux voitures, très très étonnant, dans la deuxième partie. Et au départ, c'est VW Voyou, c'est la fameuse coccinelle rouge. Et au départ, c'est un film de commande, c'est un film pour Volkswagen qui avait l'intention de vendre des coccinelles en Afrique. La commande n'a pas passé, bien sûr. Rouche, Damouré, Lame, Talou, toute la troupe ont tourné une vingtaine de scénettes. Et donc, comme Volkswagen n'était pas intéressé, ils ont monté tout simplement les scénettes ensemble. Et ça donne ces 20 minutes de portrait diffracté, merveilleux, de Damourésika, où il tient tous les rôles. Et en même temps, un portrait de la société nigérienne de l'époque, puisque justement, vous le verrez, toutes sortes de choses. Il y a énormément d'humour, il y a aussi des effets spéciaux à la Méliès, vous verrez à la fin. Voilà, donc ça c'est la première partie de notre programme, et puis je présenterai la suite après. Donc Dominique va nous lire le texte de Rouch sur Damouret et sur son écriture, et puis on verra le Damouret acteur qui met en œuvre la parole écrite et voilà, et qui l'invente à l'écran. Merci.
Damouresika est un sorko, un maître prêcheur du Niger, à la fois chasseur d'hippopotames et prêtre magistral du génie du tonnerre. Chaque soir, son père Zika, dans sa petite pirogue, part sur le fleuve, tend ses lignes et harponne quelques photophoraux, des carpes. Et son fils l'accompagne, parfois, comme simple pagayeur avant. Sa grand-mère, la vieille Kalia, faisait la pluie pour toute la région de Niamey. Et Damouret récitait avec elle les devises terribles et caressantes qui flattent les dieux et l'eau ou de la foudre. Pour le moment, Damouret a un peu plus de 30 ans. Il a deux femmes et plusieurs enfants. Il est infirmier au service de santé du Niger, un excellent infirmier qui suivra en 1956 le stage des infirmiers spécialistes. Il a appris à lire et à écrire contre son gré, et son père a dû le corriger bien souvent pour l'envoyer à l'école primaire de Niamey, où il n'a pas été un élève particulièrement remarquable. Depuis 14 ans, Damouret passe continuellement de la seringue de vaccination au harpon de chasse, de la poursuite incertaine des magiciens des savanes aux tournées réglementaires des dispensaires forains. Certes, il ne prend pas l'ethnographie plus au sérieux que la médecine, mais l'une et l'autre lui ont donné une désinvolture certaine. Et sans doute est-il aujourd'hui l'un des rares évolués africains qui ait parfaitement résolu la coexistence du DC4 et de la hache de foudre. Voilà pourquoi Damouret écrit tout naturellement au fil de la plume. C'est simplement un Africain qui raconte ses aventures dans un français qui est une traduction très proche de la langue parlée. À ce titre, Damouret n'est pas un phénomène, car tous les gens de son pays parlent de la même façon. Leurs conversations les plus ordinaires sont toujours émaillées de métaphores subtiles, de jeux de mots compliqués. Un simple marchandage sur un marché devient ainsi une éblouissante joute poétique. Et que dire des tournois oratoires auxquels se livrent les jeunes gens pour conquérir les faveurs des belles filles? Damouret a été aussi formé à cette école. Il est encore un redoutable champion des facarets, des veillées tardives autour du feu de bois. Il est sans doute aussi le premier à avoir réussi la transposition de cette langue admirable dans une autre langue écrite.
Voilà, donc Volkswagen aurait peut-être dû accepter les petits films publicitaires. Voilà, en tout cas, ils ont offert une voiture à chacun, à Damouret, à Lam, à Talou et à Moussa Amidou. Lam l'a utilisé d'ailleurs pour faire son commerce de poulet, c'est ce qu'il faisait à l'époque, en sillonnant les routes autour de Niamey. Ce film est donc de 73, il est contemporain à peu près de Cocorico Monsieur Poulet, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et le suivant est dans la même veine, fait au même moment. Et là, c'est les voitures qui sont prises avec des girafes, je ne vous en dis pas plus, c'est assez étonnant également. Les deux films donc, ont été restaurés, comme vous l'avez vu, par le CNC et mis à disposition pour cette séance. Après le foot girafe, donc une sorte de suite de VW Voyou, où nous verrons les trois acteurs auteurs ensemble. Alors vous avez vu que la musique est signée Talou Mouzouran, qui compose la musique, les paroles, et qui l'interprète au piano à pouce. Donc ça c'est un des trois acteurs fétiches de Rouch, avec Damouret qui est présent, mais Lam est également déjà là, la petite scénette avec le pont cassé, Celui qui conduit, c'est l'âme. Mais en tout cas, on va les voir tous les trois, Damouré, l'âme et Talou, dans le film qui vient, Fou de girafe. Damouré, bien entendu, est l'arbitre de ce drôle de jeu. Et puis, les deux autres sont aux commandes de deux voitures françaises. Voilà, on passe de la Volkswagen aux voitures françaises. Ensuite, on sautera une vingtaine d'années. Et on verra un film un peu plus sérieux sur autour du sida, donc ça s'appelle Damouré parle du sida. Il est donc Damouré était infirmier, comme vous l'avez vu, c'était bien l'hôpital de Niamey où il exerçait que l'on voit dans une scénette. Et Damouré parle du sida est tourné dans le dispensaire privé qu'il a ouvert à Niamey, où il recevait les gens gratuitement, il est soigné gratuitement, et qu'il a nommé d'ailleurs à Jane Roush, qu'il appréciait énormément. D'ailleurs, vous avez vu tous les dans VW Voyou, tous les disons éléments de vie de Damouré notamment, c'est vraiment ses enfants, ceux qui sortent de la voiture. Dans le texte de Roush, dans les années 50, il avait deux femmes. En 73, 20 ans plus tard, il en avait quatre. Et beaucoup d'enfants, 35 environ, et aujourd'hui beaucoup de petits-enfants. Il y a le quartier de la Mordée, notamment à Niamey, qui est peuplé par beaucoup de descendance. J'en ai connu quelques-uns. Zomo, celui qui, au moment de dans la sonnette des enfants, danse avec son petit frère. Donc Zomo est le deuxième enfant, deuxième garçon de Damouré, et le tout petit venait de naître. Voilà. Il y a ça, il y a donc le fait que Damouré était réellement infirmier, il a été un petit peu poussé à Roush pour ça, donc c'était son travail principal. Après, il a également fait des émissions de radio, par exemple, et puis donc ces films qui leur apportent à tous la célébrité, au Niger et même au-delà, puisqu'il, notamment Damouré Zika et l'âme Ibrahim Dia, seront des acteurs assez connus en Afrique de l'Ouest, qui participeront à un certain nombre de films. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc ça c'est les films de Roush, et ensuite, pour finir la séance, je vais vous présenter tout de suite le texte qui sera lu par Dominique, mais je finis avec les films, et donc le dernier film n'est pas effectivement de Roush, c'est un très joli documentaire fait par deux jeunes femmes danoises, anthropologues, qui demande, elle trouvait tellement étonnant justement ce travail collectif, cette création collective de films notamment, ces fictions-là, qu'elles ont souhaité faire un documentaire sur la troupe. Et elles sont arrivées donc au Niger en 2003, c'est-à-dire l'année avant que Roush ne disparaisse dans un accident de route justement à Niamey, autour de Niamey. Et elles ont filmé donc une partie de la troupe sans Roush, puisqu'il était à l'époque trop faible et il était resté à Paris, mais il avait évidemment facilité le tournage en 2003. Le film sera monté seulement en 2007, donc après le décès de Roush et de Talou Mozouran d'ailleurs. Et à l'époque, en 2003, c'était l'âme Ibrahim Dia qui était déjà partie. En 1997, en août 1997, donc le premier des cinq membres de la bande à partir. Et c'est à cette occasion que Roush écrit le jour même, je pense, et le lendemain, en apprenant de Damouré Zika la disparition de l'âme, le très beau texte que va nous lire Dominique, qui est un des textes les plus récents de l'anthologie, 1997, et qui est aussi un très très bel hommage et portrait de l'âme, mais aussi de la bande et puis de leur travail en commun, dont Roush dira les principaux jalons cinématographiques, y compris des films qui ne sont pas fictionnels, comme La chasse au lion à l'arc, où Damouré, l'âme et Talou ont accompagné Roush. Ils apparaissent d'ailleurs dans quelques scènes, dans quelques séquences du film, et qui a été un film fondamental pour eux, qui a duré, vous devez le savoir, sur 7 ans. C'est un film qu'ils ont commencé à tourner en 58, qui a été terminé en 65. Et donc, sur plusieurs années, ils suivent ces lions et les chasseurs qui les chasse à l'arc. Et c'est évidemment, ça cimente l'amitié. La peur aussi cimente l'amitié. Et pas seulement le rire. Voilà, donc nous aurons l'occasion à la fin de la séance de découvrir ce beau portrait de groupe et où Moussa Midou, donc le preneur de son, la personne la moins visible des cinq, est aussi très, très présente. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Dominique pour qu'il nous lise le très beau portrait en hommage à l'âme Ibrahim Dia, donc le deuxième membre du groupe. Damouré, c'était le Sorko, le Songhai, le maître pêcheur. L'âme, c'était le Peul, le berger. Talou Mouzouran, c'est le Bella, un esclave des Peuls et des Touaregs. Et puis, donc, Moussa Midou, c'est un Djerma. Voilà, donc maintenant le texte en hommage à l'âme de 1997.
Ce matin, vers 10h, un coup de téléphone du Niger de Damouré Zika apprend la mort de notre ami depuis toujours, l'âme Ibrahima Dia. Il était venu dire adieu le 31 mai dernier, en pleine nuit, tenant à peine debout. Il m'avait simplement dit « Jean, je suis venu te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maintenant, je peux mourir, je veux mourir. » 2 mois plus tard, il nous quittait. Je l'avais rencontré autant longtemps, au rendez-vous de juillet de Jacques Becker, quand, juste un an après la fin de la guerre, avec mes copains de l'école des Ponts et Chaussées, Jean Sauvy et Pierre Ponty, nous avions proposé au groupe Lyotard du Club des Explorateurs et à l'IFAN de Théodore Monod de descendre le Niger en pirogue depuis sa source jusqu'à la mer. 4200 kilomètres, soit 9 mois de navigation à la pagaie ou à la perche, sous l'œil attentif d'une caméra 16 mm Bell & Howell de l'armée américaine, achetée au marché aux puces la veille de notre départ. Damouré Zika, jeune infirmier et jeune marié, nous accompagna en voyage de noces dans la W du fleuve, jusque à la frontière britannique de la Nigeria, à Gaïa. Mais ce bon fonctionnaire nigérien n'avait pas le droit de traverser la frontière. Il nous présenta un successeur, l'âme Ibrahima Dia, le petit l'âme, jeune, gourmand d'aventure. Tous les soirs, l'âme nous racontait comment, à 7 ans, il avait suivi, comme élève de l'école coranique, un marabout Peul qui conduisit sa petite troupe de mendiants dévots jusqu'à Abeokuta, en Nigeria du Sud, où ce vieux maître mourut. Le petit lame, tout seul, décida de revenir à Gaïa, à pied, à près de 1000 kilomètres de là. Et maintenant, il était là, à nous guider tout le long du grand fleuve jusqu'à la mer. Il nous suivit jusqu'à Lagos, où il espérait trouver du travail. Mais le matin de notre départ, ayant aidé à charger l'avion Fokker qui nous ramenait à Paris via Niamey, il resta à bord, passager clandestin, avec la complicité de l'équipage, et nous le laissâmes à Niamey, d'où il m'envoyait une lettre confirmant son désir de participer à toutes nos aventures. Je l'ai publié sous le titre « Amitié noire » dans l'un des premiers numéros de Présence africaine d'Alioune Diop. Et c'est ainsi qu'avec l'infirmier Damouré Zika et le Bella Talou Mouzouran que Damouré et moi avions condamné à vivre en l'envoyant 1 an aux grandes endémies pour se guérir de la lèpre, nous sommes partis à pied, en pirogue, à cheval, en voiture, en avion, à la découverte de l'Afrique noire, de l'Italie, de la France ou de la Hollande. Et comme toutes nos recherches et aventures étaient des sujets de films, nous avons créé une société de réalisation cinématographique, Dalaruta, Damouré, Lame, Rouche, Talou, dont le capital initial n'était que $1 Dalaruta, mais l'actif intarissable. Des magiciens de Wanzerbe jusqu'à moi fatigué debout, moi couché, en passant par Les Maîtres Fous et Jaguar, Moi à Noir, La Chasse au Lion à l'Arc, Petit à Petit, Cocorico Monsieur Poulet, dont l'âme et sa deux chevaux sont les principaux acteurs-auteurs, Babatou, Les Trois Conseils, Dionysos, Madame Lowe, et Dalla Ruta, sans doute unique dans le cinéma d'aujourd'hui, partage chaque année, grâce à la SCAM, nos droits d'auteur à parts égales entre Dalla Ruta. Nous avions un film en projet, La Vache Merveilleuse, et nous avons décidé avec Damouré ce matin de dédier ce film à la mémoire de l'âme Ibrahima Dia, du petit l'âme. Et je suis sûr que l'âme et son double seront présents pour rectifier l'exubérance de Damouré, pour éclater de rire devant les cabrioles de Talou. Car, tout naturellement, il était un merveilleux acteur, le meilleur. Comment oublier le marabout coureur de demoiselles de Oisou Polygame d'Umaru Ganda, ou le rêve de sa rencontre avec le génie de l'eau dans Moi fatigué. Les Anglais parleraient d'understatement, de présence admirablement discrète, car c'est avec lui que nous allions repérer les paysages, rechercher les acteurs, inventer les péripéties, les décors, les rencontres. Et toujours, quand nous avions tout prévu, il inventait une nouvelle aventure, préparant un poulet crapaudine cuit directement sur le tuyau d'échappement de la voiture, car il était aussi maître du bon bouffement. Fondas, tilas, salut irrémédiable. Postscriptum, je tiens à remercier ici tous mes amis du Niger, Amadou Ousmane Gadézé, le doyen de la faculté de médecine, le ministre Inoussa Ousaini, et tous ceux qui ont tout fait pour sauver l'âme Ibrahima Dia, notre ami depuis toujours.
Alors, d'abord, des excuses pour le dernier film où il y avait des quelques passages non peut-être intelligibles, puisqu'il c'était sous-titré en anglais. Et donc, pour tout vous dire, on a reçu un petit peu en dernière minute, par notre faute, la cassette, c'est une bêta du Danemark, de la part des deux co-réalisatrices. Donc voilà, on s'excuse si ça a pu gêner. Voilà. Ensuite, peut-être, je ne sais pas si on fait un petit échange, si vous avez des remarques. Enfin, je voudrais en tout cas remercier encore Dominique pour ces deux très belles lectures que j'ai trouvées très belles. Et puis aussi, bien sûr, Andrea pour ce programme-là très réjouissant et très émouvant. Voilà. C'est comme souvent avec Rouche, d'ailleurs. Alors, voilà, si vous avez des questions, vous avez compris que Andrea est un rouchologue précis et érudit. Ou alors, sinon, peut-être que tu nous parles de la prochaine séance, hein, qui est dans pas très longtemps, dans 3 semaines.
Je veux bien répondre à des questions. Ce dernier film n'est pas très connu, mais je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Il y a eu d'autres réalisateurs qui ont filmé Rouge, Jean-André Fieschi par exemple, ou Philo Brickstein dans les années 70. Et à chaque fois, c'est très étonnant à quel point les personnes qui vont au Niger rencontrer Rouge et ses cercles rentrent dans quelque chose de très chaleureux et d'assez surprenant, et à quel point ils sont pris un peu dans le jeu, et justement ça donne une relation assez empathique, ça donne des films très touchant, justement. Et, alors, par exemple, Jean-André Fieschi avait caressé l'idée d'aller filmer Rouche et d'Amouré et compagnie dès les années 60, c'est-à-dire au début de son activité de réalisateur. Et après, par un certain nombre de raisons, il a filmé, justement, son idée, c'était de faire un portrait de Pasolini et de son cercle, et de Rouche et de son cercle. Il associait un petit peu disons, les méthodes et les approches. Et celui de Pasolini, sur Pasolini, il l'a fait. Sur Rouche, non. Il a attendu 30 ans pour le faire dans les années 90, au moment justement du tournage de La Vache Merveilleuse dont il parle ici, et qui est un film qui n'a jamais été achevé, mais dont deux tournages ont été entrepris en 94 et en 97. Jean-André Fieschi était présent au moment du tournage du deuxième film. Et par exemple, Jean-André Fieschi a ensuite désiré faire un portrait de Talou Mouzouran seul, qu'il a tourné l'année suivante. Et voilà, comme il a fait un portrait de Ninetto d'Avoli pour Pasolini des années plus tard. Voilà. Donc il y a ces réalisateurs-là entrent aussi en parenté, en quelque sorte, et suivent en partie les traces, et sont happés dans cette famille assez, assez belle et assez étonnante. Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, des réactions. C'est une chose assez courante. En tout cas, le tournage a été réalisé en 2003. Il y a une première version que vous avez vue terminée en 2005. Elles ont même repris le film et finalisé en 2007. Voilà. Mais c'est une chose très courante au cinéma. Il n'y a pas de raison particulière. Elles ont dû avoir le temps de finir le film. Entre-temps, il y a eu le décès de Jean Rouche, comme c'est dit à la fin, en février 2004, ce qui a peut-être retardé un petit peu la finalisation du film, je ne sais pas. Mais bon, une année et demie, c'est quelque chose d'assez courant pour finir un film. C'est intéressant qu'il soit tourné juste avant que Rouche ne décède et fini après. Ah, très bonne question. Si. Mais justement, merci de la poser, parce que ça, évidemment, ça soulève toute une série d'autres questions. Et par exemple, dans un des textes du recueil dédié à Roberto Rossellini, dont nous avons, enfin, j'ai fait la première séance du cycle autour de Rossellini et la Nouvelle Vague aux Ateliers Varan. Justement, Rouche raconte ça, il aimait bien le redire aussi, le rappeler, que Rossellini, en voyant Jaguar, qui est donc le premier film fait avec D'Amouré, Zika, Lam, Talou, le premier film achevé, disons, est extrêmement important, qui lui aussi, alors là du coup, a mis énormément de temps à être fini, puisqu'il est tourné en 54 et finalisé seulement en 68. Et ce film-là donc a été montré à Roberto Rossellini, en 55, c'est-à-dire au retour de la mission, dans un état d'inachèvement, évidemment, c'était un montage image de 3 heures. Et Rouche le commentait. Et la remarque de Rossellini à la projection, qui était enthousiasmée par le film, ce qui lui a en quelque sorte donné envie d'aller filmer en Inde ensuite, c'est ce que j'ai un petit peu dit à la séance des Ateliers Varan. La remarque était la suivante, voilà, mais c'est très bien les hommes jaguars, mais où sont les femmes jaguars ? Donc voilà, il a incité Rouche à faire un film avec plus de femmes. Alors effectivement, elles ne sont pas très présentes. Par exemple, dans VW Voyou, vous avez vu un moment la scénette avec Diama. Diama Djingaré, qui a tourné aussi quelques films au Niger, était essentiellement présentatrice à la radio pendant des années. Elle a pris sa retraite. D'Amouré Zika aussi a fait des émissions médicales, enfin comme pour le sida. Enfin, il le faisait régulièrement, il avait des émissions à Radio Niger toutes les semaines pendant de longues années. Voilà, donc il y a quand même des présences féminines dans les films de Rouche, mais elles sont liminaires. Diama et Mariama sont les deux seuls qui reviennent à un moment dans les années 60, 70 et 80 essentiellement, et malheureusement dans des films aussi qui ne sont pas achevés, comme Les Deux Chasseurs, où là ils ont un rôle important. Mais voilà, Rouch n'a pas eu l'occasion de finir le film. Il reste 17 heures de roche. Et voilà. Donc l'intention, c'est effectivement d'élargir un petit peu, enfin de faire intervenir aussi des femmes, mais il ne l'a pas vraiment réalisé. Il y a par exemple Zomo et ses frères, qui est un portrait, un très joli portrait donc du deuxième fils de Damorezica, que l'on voit aussi dans VW Voyo, c'est celui qui danse avec son petit frère. Et c'est un portrait d'une bande qu'ils ont créée à Niamey, qui s'appelait Super Gawé. Et là, c'est évidemment, ils filment les garçons et les filles, les frères et sœurs qui jouent et qui dansent ensemble, qui font la musique ensemble. Voilà. Mais c'est vrai que cette bande d'Ala Routamou, c'est une bande masculine. Il y a par exemple une grande actrice nigérienne, Zalika Souley, auquel Ramatou Keïta a dédié un très joli documentaire, ça s'appelle Alessi, je vous incite à le voir, de 2005, où elle fait un focus sur les pionniers nigériens donc Umaru Ganda, Mustapha Alassane, et où il met en lumière le rôle de Zalika Souley, que Rouge ne fera jamais tourner. Ça, je me suis toujours demandé pourquoi. Et voilà. Alors que Zalika, par exemple, a le rôle dans un film de cow-boy de 1966, qui est le merveilleux film de Mustapha Alassane, Le retour d'un aventurier. Donc c'est la seule femme dans un groupe d'hommes. Donc Rouge aurait pu, mais voilà, je ne sais pas très bien. Alors il filme les femmes de Damouré, qui ont des rôles aussi en cinéma, très, très secondaires. Naturellement, le Niger est un pays musulman, donc il y a beaucoup de freins, mais pas d'impossibilité. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas à l'époque. Zalika Souley a eu, dans le film Ramatou Keïta, on suit vraiment son périple, et elle dit un certain nombre de raisons, et voilà, et à quel point elle a dû s'accrocher justement pour devenir actrice et rester actrice tout en étant obligée de faire d'autres choses à côté, parce que ça ne suffisait pas, bien sûr. Mais Rouge, par exemple, a permis à... Alors, il a fait jouer sa fille Faye dans Petit à Petit, qui a quand même un rôle, elle n'a pas un rôle peut-être principal, mais elle a un rôle important par rapport à Damouré, etc. Alors c'est une prostituée à Paris, mais sa fille Faye deviendra ensuite réalisatrice en 72, quelques années après Petit à Petit, et c'est grâce à Rouge qu'elle commence, et c'est peut-être la plus importante réalisatrice africaine, elle est sénégalaise. Donc Rouge incite, disons, mais c'est vrai que dans son cinéma, il y a peu de présence féminine. De la même manière, il fait en sorte que Maria Maïma, qui était cousine germaine de Damorezica, se lance dans la réalisation et fera quelques films dans les années 80 qui seront primés à Venise, des documentaires, très très jolis films, et puis elle arrête pour embrasser une carrière diplomatique et politique. Et elle se trouve à Paris actuellement. Et donc Rouch incite évidemment les femmes à se lancer, plus dans la réalisation, paradoxalement. Très certainement, oui, bien sûr. Oui, c'est aussi une histoire de génération, bien entendu. Oui, oui. Pardon ? Lequel ? Le dernier film ? Alors, par exemple, celui sur le sida a beaucoup, beaucoup circulé. Parce que c'était, bon, vous avez vu, c'est un film pédagogique aussi. Et il a été montré un peu partout dans le pays, à l'extérieur, dans des projections itinérantes. Et ça a eu beaucoup d'effets. C'est un film qui a été efficace, enfin, qui a fait circuler l'information. Après, évidemment, les gens demandaient, donc ça a suscité des débats, etc. Oui, c'est un film qui a beaucoup tourné. À ce moment-là, en plus, c'était un peu le début de la période. Les deux autres, je ne suis pas certain qu'ils étaient beaucoup montrés. Mais en tout cas, il y a les films qui sont le plus montrés au Niger, c'est les documentaires, paradoxalement. Donc La chasse au lion à l'arc, Bataille sur le grand fleuve, qui est un des hits au Niger, qui passe aussi à la télé encore aujourd'hui. Surtout les films donc, sur les traditions, les films documentaires, sur les danses de possession un peu moins. Mais les films sur les chasses, oui, beaucoup. Les films d'Amour et compagnie sont un peu... Alors c'est assez intéressant parce qu'ils sont souvent critiqués aussi. À cause de, ben, on va dire, de la verve, d'Amour, etc. De ce que ça porte de peut-être de dérangeant. Enfin, ils débordent un petit peu les cadres, ils sont très libres. Ils s'amusent. Alors pourquoi ils s'amusent autant? Donc on a beaucoup critiqué dans ce sens-là. Alors que peut-être c'est à travers le rire qu'un certain nombre de choses sont véhiculées. Mais enfin, c'est... Pardon? Il y a beaucoup d'humour, oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, il casse un certain nombre de cordes aussi, tout effectivement en ne cassant pas celui sur la relation homme-femme, etc. Enfin, mais c'est des films un peu dérangeants quand même. En partie. Et pour les girafes, il est aujourd'hui troublant. Est-ce que la pauvre girafe, est-ce que le cœur de la pauvre girafe a tenu? Je ne sais pas. En tout cas, le but, ce n'était pas de l'achever. Mais assez merveilleux de voir. Au Niger, il y a toujours des girafes. Et c'est merveilleux de les voir courir, etc. À mon avis, ils ont fait le film pour ça. D'ailleurs, dans La chasse au lion, au début, il y a cette scène-là. Il y a quelques plans où on voit de la même manière une girafe et une voiture qui courent.
On a l'impression qu'il a fait le film effectivement pour filmer la course.
Cette course tellement étonnante et élégante, etc. D'ailleurs, les girafes courent peu de temps. Quand elles courent spontanément, c'est toujours pour très peu de temps. Donc là, ils l'ont obligé à courir. Mmh. Oui, oui. Bah, nous sommes en Europe. Oui, oui, oui. Non, bien sûr.
Il a été édité en DVD.
Ah oui, oui, oui.
Foot girafe.
En 2005. En 2005. La première édition des éditions Montparnasse. Ça, c'est ton affaire.
Il n'y a pas la mention, aucune girafe n'a été
blessée.
Bien. Peut-être, Andrea, si tu peux nous dire un mot sur la séance.
Très
prochaine.
Simplement, donc le prochain lecteur sera Noël Herp, que vous connaissez peut-être, qui est un acteur qui peut être flamboyant. Et par ailleurs critique de cinéma, enseignant. Et voilà, et donc il va présenter, comme vous le voyez, des films de Rouche un peu partout dans le monde. Il va accompagner des films tournés au Japon, aux États-Unis, en Hollande. Et voilà, qui sont des portraits, c'est des films des années 80, essentiellement 70-80, que Rouche a nommé ciné-portrait. Et donc cette séance-là sera peut-être celle qui lira le plus directement les textes du recueil et les films. Voilà, c'est des portraits cinématographiques, comme Rouche peut faire des portraits écrits qui sont dans le livre. Voilà. Et puis n'oubliez pas, si ça vous intéresse, la séance du 4 décembre aux ateliers Varan, qui clôt la chose, qui est plus longue, hein, puisque les dimanches de Varan durent 4 heures. Et là, ce sera dédié à Oumaru Ganda et à Mustapha Alassane, donc deux des pionniers du cinéma africain que Rouche incite et aide à se lancer. C'est une séance très stimulante aussi.
Et de fiction.
Et de fiction, oui.
Bien,
voilà. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.